En coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Il vaut mieux enregistrer, comme ça le nom y figurera, au général Claude Barrois, qui est donc bon, professeur agrégé, j'imaginais, émérite du Val-de-Grâce, psychiatre et psychanalyste.
Oui, alors, comme vous sembliez en attente d'éléments psychologiques, je vais vous en fournir peut-être à foison, peut-être de trop. Alors, le terme de guerrier, j'ai appelé mon exposé « les guerriers », à quelque chose d'antique et de médiéval pour nos oreilles de 2014. Mon propos, c'est de nous interroger sur cette figure étrange, de plus en plus lointaine, et d'essayer d'en saisir des ressorts de prestige, quitte à raviver une nostalgie, d'ailleurs un peu littéraire. Mon propos, ça, malgré la sympathie que j'ai pour les guerriers que j'ai côtoyés, évidemment, pourtant, il ne s'agit pas d'une apologétique, mais enfin, quand même, j'étais assez proche. Guerrier, honneur et gloire sont des mots qui ne nous parlent plus guère. Mon intérêt pour les guerriers ne provient pas seulement de ma carrière de médecin en opération d'Algérie, puis de psychiatre au Val-de-Grâce, au cours desquels j'ai connu des combattants et des soldats qui étaient de véritables guerriers, au sens où je l'entends. J'ai consacré une étude en 1993 à cette difficile question, un peu à la mode dans notre pays, comme vous disiez. Il existe un très grand nombre de livres sur les guerriers, mais ce sont presque toujours des études historiques, anecdotiques, monographiques, littéraires, et d'approche descriptive qui n'abordent pas, comme on le disait tout à l'heure, les ressorts profonds. Et pourtant, je n'aime pas beaucoup cette métaphore éculée de la profondeur dès qu'il s'agit de psychologie. Alors, compte tenu de ma limite de temps, je centrerai mon exposé essentiellement sur les guerriers, tels qu'ils nous parlent à l'époque moderne. Il s'agit là d'une question évidemment actuelle, au moment où notre pays a dû projeter des forces dans plusieurs parties du monde, et en Afrique notamment. Mais n'est-il pas nécessaire de proposer quand même une définition, même approximative, de ce que j'entends par guerrier ? Ça paraît nécessaire pour éviter les flous terminologiques, voire des confusions dans le champ sémantique étendu, et du fait des usages médiatiques et littéraires actuels. Distinguons d'emblée le terme de combattant, c'est tout simplement l'homme qui prend part à un combat, de soldat, l'homme qui sert dans une armée ou un groupe armé. Le terme de héros, issu des mythologies, est utilisé dans des usages apologétiques, littéraires, historiques, pour désigner le destin sacrificiel d'hommes, souvent au-delà des situations de combat. Il y a des héros dans la vie civile et des guerriers qui ne se retrouvent pas dans un destin sacrificiel. Les héros sont depuis des siècles quasi sanctifiés dans les livres, les médias, et il est classique de dire que la plupart des vrais héros sont morts. À l'inverse, de nombreux guerriers ne sont pas reconnus, fuient même la célébrité et ne font pas même du sacrifice suprême une vertu guerrière. Ne faut-il pas rappeler ici à nouveau, je n'y résiste pas, la phrase du général Patton devant ses armes en 1944 : ce n'est pas vous qui devez mourir pour la patrie, ce sont les salauds d'en face qui doivent mourir pour nous. Phrase qui déclencha une ovation de tout son corps d'armée. Pour le guerrier, sa propre mort est évidemment une possibilité parfaitement acceptée, mais qui, dans les combats, reste virtuelle et passe nettement après l'élimination de l'ennemi. On pourrait s'étendre longtemps sur le sujet. Je proposerai une définition purement nominaliste, mais même pour un simple usage, cette définition a l'intérêt d'une certaine rigueur et d'une consistance suffisante. J'accepte par avance, évidemment, toutes vos critiques et les modifications constructives. Un guerrier est un combattant exceptionnel par la lucidité délibérée de son choix de participer à un conflit violent, par la qualité avec laquelle il remplit ses missions, qui lui ont été confiées ou qu'il s'est imposé à lui-même, par son goût et son habileté pour ce type d'action. Ensuite vient dans cette définition, généralement, une précision qui s'applique aux guerriers de culture occidentale, mais pas forcément à ceux issus de cultures islamiques, orientales ou asiatiques. J'ajouterai qu'ils sont marqua par le respect de l'interdit de s'attaquer à des hommes désarmés ou des femmes et enfants des êtres sans défense. Il y a évidemment des islamistes, des djihadistes qui sont des guerriers, comme dans les troupes SS nazies autrefois, japonaises, des rebelles vietnamiens, algériens. Le terme même de terroriste fait oublier qu'il désigne toujours les ennemis, ceux d'en face, pas seulement leur méthode. Après ces préliminaires, je soulèverai au passage un problème du rapport et de la jeunesse du guerrier dans la guerre. Peut-il y avoir des vrais guerriers sans guerre ? Peut-il y avoir des vraies guerres sans guerriers ? Déclarer une guerre ou y participer, uniquement avec des hommes futurs combattants, dénués de tout esprit et vertu guerrière. Il s'agit là d'une question fondamentale, qu'ont dû résoudre plusieurs nations dans les guerres proches de notre époque, notamment la Seconde Guerre mondiale. C'est le problème que j'appellerai la naissance ou le surgissement du guerrier. Le problème se pose actuellement, par exemple, avec les djihadistes en Irak. Est-ce qu'il y a beaucoup de guerriers dans ce qui se passe dramatiquement actuel ? Alors, sur le plan des racines de la fonction guerrière, je ne vais pas ici m'étendre et rivaliser avec l'ensemble d'historiens, de sociologues, de politologues qu'il y a dans cette salle. Et je ne ferai que rappeler les modèles dans les mythes et les épopées, de rappeler la puissance des identifications guerrières. En Occident, un appareil culturel fournit des modèles d'identification, d'échelle de valeur pour réveiller et entretenir les motivations. Aussi, les mythes, les épopées ont été des éléments conscients et surtout inconscients de la pollution et de la propulsion du guerrier. Georges Dumézil retrouve dans sa mythologie comparée des régularités saisissantes pour l'étude des guerriers historiques anciens et modernes. Il analyse en particulier le caractère inéluctable des transgressions des lois au profit de la force en soi. Alors, je ne vais pas rappeler, bien sûr, l'hoplite grec, le Sparte, les Spartiates, leur entraînement extraordinaire, le guerrier chinois tel qu'il est retracé par Sun Tse, qui est ancêtre de Clausewitz, on pourrait dire, au Japon, les guerriers les samouraïs et le Bushido, qui est un devenir guerrier, le guerrier turco-mongol, qui est l'inverse pratiquement du guerrier prôné par Sun Tse, enfin le chevalier médiéval, etc. Par contre, j'évoquerai plus longuement les conceptions de Karl von Clausewitz, que je passerai très très vite, parce que ici, je crois que Jean Béchler connaît beaucoup mieux que moi ce problème et d'autres que moi. Le livre 1 est consacré dans De la guerre, Zum Krieg, est consacré à l'aguerrissement, c'est-à-dire au devenir guerrier, dont la base essentielle est la violence originelle, qui devrait être transformée en violence guerrière, par le génie guerrier, sorte d'idéal regroupant toutes les plus hautes qualités. Pour Clausewitz, c'est l'intention hostile, la haine modulée par l'intelligence, qui est le moteur des guerres. Le génie guerrier est une combinaison optimale d'aptitudes intellectuelles et morales de haut niveau et de disposition à la violence belliqueuse. Les vertus ou forces qui constituent le génie guerrier comprennent le courage comme trait de personnalité, lié à une certaine indifférence à la mort et au danger, au spectacle de sacrifices sanglants, et au courage comme sentiment suscité par l'enthousiasme, l'ambition, le patriotisme, et enfin le courage physique, avec la résistance, l'endurance, y compris dans la souffrance corporelle. Pour Clausewitz, deux des plus grands attributs guerriers sont l'ambition de l'honneur et de la gloire. Il place en seconde position, ce qui est très très intéressant à mon avis, les autres sentiments tels que l'amour de la patrie, le dévouement fanatique à une idée, la vengeance et les enthousiasmes de toutes sortes, qui ne sont pas des moteurs essentiels des chefs de guerre. Il privilégie les hommes aux passions fortes, profondes et secrètes, qui ne s'émeuvent que progressivement. Bon, on a déjà parlé des travaux d'Ardan Dupic, et j'ai évoqué les travaux du général Marshall en 1947, qui établit que seulement un quart des combattants utilisent son arme individuelle sur le champ de bataille. cette statistique indiquerait la proportion de soldats guerriers durant la Seconde Guerre mondiale. L'écrivain américain James Jones, combattant du Pacifique, met en évidence la place modeste des motivations nationales qualifiées de simple propagande dans l'action guerrière et l'importance, par contre, de la place du groupe, du groupe primaire, comme il était dit. Il décrit remarquablement, dans ce qu'il nomme le devenir soldat, le being soldier, le mécanisme de résignation, plus ou moins consciente, le sentiment de fantasme d'être déjà mort ou mort vivant, au prix d'un clivage de la personnalité. Le guerrier sacrifie son moi de paix, son fonctionnement existentiel normal, au profit de son moi de guerre, pour reprendre une distinction opérée par Freud. Le soldat devient ainsi un guerrier professionnel, parfaitement adapté au cauchemar du champ de bataille, qui ne pense qu'à l'entretien de son arme, à manger suffisamment, à ses besoins naturels et aux manœuvres et aux actions de combat. Alors, je parlerai maintenant de témoignages de soldats, de guerriers français. Ce ne sont pas des cas types, mais ils ont marqué pour moi des jalons importants dans leur singularité. Je parlerai tout d'abord d'un colonel en retraite de 75 ans qui n'a jamais cessé de se battre de 1940 à 1962 depuis sa sortie de Saint-Cyr. À l'occasion d'un état dépressif, il passe des examens auprès d'un psychologue-clinicien. Bien que très coopérant, il demande à celui-ci, dès le seuil de son bureau, « Monsieur, voudriez-vous me dire si vous partagez les mêmes valeurs que moi ?» Le psy lui répond quelque chose comme « Qu'entendez-vous par là, par les mêmes valeurs, asseyez-vous, on va en parler. » Dès qu'il obtient cette réponse neutre et bienveillante, du style psy classique, le colonel ressortit immédiatement et avant de claquer la porte, lança au psychologue « J'ai compris, c'est pas la peine d'aller plus loin. » Cette anecdote illustre parfaitement les aspérités du contact avec certains guerriers, ainsi que le manque de compréhension immédiate qu'il rencontre parfois. Au cours de l'entretien que j'ai eu peu après, je lui ai proposé des réponses qu'il attendait. Évidemment, me dit-il, il fallait dire simplement oui ou bien même non. Oui, même s'il ne le pensait pas vraiment. Non permettait d'ouvrir un vrai dialogue, une confrontation vivante pour cet authentique guerrier. Avec de tels hommes, il est vain, face à leur grande intuition, de jouer un rôle. Mais on comprend qu'il soit difficilement compréhensible pour les Français du XXIe siècle. Il m'a beaucoup appris sur les ressorts existentiels des guerriers. À côté du goût pour le danger, il plaçait le dévouement absolu et l'amour pour les hommes qu'il commande, la science de la ruse, du jeu, que ce soit des échecs ou du poker. Jouer avec la mort, c'est le plus grand des jeux. L'importance de l'agressivité, comme le signale Clausewitz, agressif dans le sens noble, courageux et à bon escient, ainsi qu'il avait écrit dans un texte qui ébahiait nos entretiens. D est un officier supérieur qui a fait 23 années de campagne, 3 blessures en combat, 13 citations, médailles militaires, etc. Appartenant à une famille très marquée par les guerres, son père avait été gazé grièvement pendant la Première Guerre mondiale, baigné dès l'enfance par la volonté nationale de reprendre l'Alsace et la Lorraine, un oncle tué en Indochine par les pavillons noirs en 1912, un frère prisonnier des Allemands en 40 et évadé en 41, un grand-père avait parcouru toutes les colonies françaises d'Afrique pendant ses 7 ans de service. Son père, de caractère assez sauvage, était un homme d'action et dès enfant a pris de lui le plaisir de la chasse et du braconnage. On retrouve aussi toujours le problème de la chasse. Et la famille avait un goût certain pour l'aventure, à risque, était imprégnée de patriotisme. À 14 ans, il fit un tour de France seul à vélo, n'ayant pas trouvé de copain pour l'accompagner. À 15 ans, il fut marqué par la prise d'Irun par les nationalistes espagnols et au repli des brigades internationales. Il y avait assisté alors qu'il allait à Hendaye en vélo trouver un copain. Il était fasciné par l'action violente, mais il était attiré par l'aventure dans les grands espaces. En 1939, l'idée que les Allemands pouvaient envahir la France fut intolérable. Après un essai d'engagement en 1940 dans l'aviation, qui fut refusé, il passe en Afrique du Nord, s'engage chez les Spahis, puis au Sénégal, est envoyé ensuite à l'école d'officiers de Cherchel, qu'il quitte en 1943 illégalement pour rallier un bataillon de choc où l'on puisse vraiment faire la guerre. Campagne de Provence jusqu'à Grenoble, fin de la guerre, il décide de rester dans l'armée plutôt que de reprendre ses études. Il se sentait utile à son pays et était attaché au climat de vraie discipline en guerre avec des hommes engagés, tous volontaires. Il est affecté en Indochine dans un régiment de parachutistes de la Légion. Mariage, divorce, second mariage, la famille lui apparaît comme un risque de le soustraire au service exclusif des hommes dans l'action guerrière. Le qualificatif d'héroïque, me dit-il, est utilisé à tort et à travers par les autres. L'action guerrière relève de l'accident, de l'aléatoire et d'une impulsion quasi instinctive, intuitive ou réfléchie. Les vraies actions sont parfois totalement ignorées, comme la traversée d'un champ de mine où le chef demande à ses hommes d'avancer en mettant leurs pas dans la face des autres. En donnant l'assaut, dit-il, le guerrier se sent d'un seul coup détaché, léger, invulnérable. C'est une protection miraculeuse. Il faut se sentir modeste, surtout pas tout puissant, car ça conduit à des catastrophes. Les guerriers emploient souvent le terme de beau soldat, comprenant la beauté physique, la beauté morale et ce qu'on appelle la classe. On retrouve là une fonction de modèle d'identification idéale, en méritant, comme dans la petite enfance, l'amour de ses parents. Le sens de l'action domine la vie de D, comme d'autres guerriers, comme sa devise personnelle, ne pas subir. Un goût pour la compétition, pas avec la limite des autres, qui ne serait que du sport, la compétition sportive, mais avec lui-même. Il parle peu de ses propres réactions de peur, d'émotions terrifiantes, de sa réaction devant la perspective de mort au combat. En fait, il semble que les affects chez lui, enfin, comme chez d'autres guerriers, soient remplacés par l'action elle-même qui absorbe tout, ainsi que le souci pour ses hommes. Ses limites personnelles sont déplacées sur le groupe dont il fait partie. Troisième guerrier, un colonel en retraite, blessé de guerre, bardé de citations, présente un parcours assez voisin du précédent sur le plan familial. Mais à la différence du précédent, il dut traverser très tôt, à 4 ans, le handicap d'une maladie grave, la poliomyélite, qui faisait de lui un quasi-infirme. Il fut alité pendant 4 ans avant de reprendre à marcher. Malgré cela, il parvient à dépasser son handicap pour devenir un soldat comme les autres. Il entre dans un maquis qui lui paraît peu combatif. À la Libération, il essaie de s'engager dans la 2e DB, il est refusé. Il est enfin accepté dans un bataillon de FFI, mais il est déçu par ce qu'il considère comme leur amateurisme. Il voulait, lui, se battre et chasser les Allemands de France et ne pas être un spectateur passif. On retrouve tout le temps chez les guerriers cette opposition actif-passif. C'est très, très, très important. Enfin, affecté dans l'armée régulière comme transmetteur, remarqué comme animateur, il dirige la troupe itinérante du théâtre aux armées. Et son nom était célèbre. Le combat, c'est un spectacle. Les grands chefs qui ont laissé leur nom étaient des comédiens. Il parvient, à force de débrouiller, à passer dans l'infanterie, puis chez les parachutistes, expliquant sa boiterie au médecin qui le voyait par un caillou dans sa chaussure. Le médecin, d'ailleurs, peu consciencieux. Fin de contrat en 50, puis après un stage de réserviste, volontaire pour l'Indochine, il quitte sa famille à nouveau, éploré, et ses deux enfants, tous très jeunes, pour l'Indochine, et il accomplit des actions militaires exceptionnelles. De 52 à 54, il connut le calvaire des camps Viet Minh, après une marche de 700 km dans la jungle. La vie de guerrier, dit-il, c'est une grande pièce tragique qu'il faut jouer. On retrouve cette métaphore, c'est une quasi-métaphore du théâtre, qui est très curieuse, un peu avec un certain humour. L'héroïsme, c'est l'antidote de la peur. Il y a une sorte de respect humain qui oblige à dépasser ça. Sinon, on est rejeté par le groupe. Pas sous le contrôle du groupe, mais sous leur regard, plutôt. Il vaut mieux mourir que d'être déshonoré, que d'être un lâche, car on ne s'en relève jamais, alors que la mort, on s'en relève. Le courage, c'est la fuite en avant. C'est pas tout à fait la fuite, mais c'est la marche en avant. Vers l'ennemi, c'est l'assaut dans la bonne direction. Et me dit-il, je ne voudrais pas être dans la peau de celui qui n'est pas monté à l'assaut. Un peu une grosse exigence. Après un grave accident de parachute, il perdit l'aptitude au saut. Alors l'armée n'avait plus d'intérêt pour lui. Il la quitta car rester équivalait à faire de la figuration, encore du théâtre, en se baladant avec un béret rouge. On n'en finirait pas d'interroger ces paroles de guerrier pour finalement s'imprégner du sang, de leur appétit d'action et de sentir, même des années après les combats, l'extraordinaire pulsion guerrière qui les anime. Une remarque en passant. Les deux témoignages que je vous ai présentés venaient de ce que j'appelle des guerriers originaires ou traditionnels du fait de leur histoire familiale et personnelle depuis l'enfance. Ils deviennent souvent des chefs militaires. Mais à côté d'eux, et probablement en bien plus grand nombre, il y a les guerriers que je désignerai comme des guerriers auto-révélés dans les combats et dans des conditions non militaires, comme des catastrophes, même naturelles, ou des accidents collectifs. Je pense par exemple aux survivants du Fairchild dans la Cordillère des Andes, la fameuse histoire extraordinaire. En guerre, et l'actualité et les récentes cérémonies nous l'ont rappelé, il y a l'histoire du commando Kieffer dans le débarquement en Normandie. Ces hommes apparaissent comme de grands guerriers, très méconnus après leur retour. Je vais évoquer maintenant quelques dimensions psychologiques à nous. La compréhension de l'histoire intérieure des guerriers dépasse largement le domaine de la psychologie et même de la psychanalyse au sens habituel. Elle concerne au moins autant des domaines, on l'a déjà vu, tels que la sociologie, la psychologie, les masses, la politologie, l'histoire, la philosophie, les sciences morales et politiques. Et je me bornerai à évoquer quelques aspects psychologiques et analytiques des capacités et conflits des guerriers et à indiquer très brièvement quelques lignes de force dans des approfondissements dont on ne peut pas faire l'économie. Il est assez difficile à notre époque de définir et de sentir le terme et le concept d'honneur, alors que celui de déshonneur sont plus familiers dans le domaine des faits divers politiques notamment. Le déshonneur qui entraîne la honte s'attache à des manquements à l'éthique du guerrier et non pas à l'éthique en général. Je ne suis pas trop long, ça va. Bon. Le déshonneur qui ne fait qu'un avec la faute commise détruirait littéralement le guerrier. L'honneur se mesure à l'exigence éventuelle du sacrifice de soi qui attestera le champ d'honneur. Le sens de l'honneur consacre une pure exigence par le sacrifice au nom d'un absolu. La mort peut être considérée comme une fin chargée de sens, distincte de la vie, sans l'horizon du... Vaclav Havel écrit « sans l'horizon du sacrifice suprême, tout sacrifice perd son sens, rien ne vaut rien ». L'honneur, c'est ce qu'on a d'emblée et c'est ce qu'on est. Il est un ressort de cette singulière propulsion existentielle. C'est pourquoi les guerriers que j'ai rencontrés le placent tous à la première place. Il n'y a pas de guerrier sans honneur et sans épreuve de vérité, la mort. Mais c'est une manière de donner sens à la vie en lui conférant sa valeur. Dans l'honneur guerrier, on voit non seulement le regard, le jugement des autres et celui des pères, mais aussi un espoir profond dans ce qui cimente les cultures, à savoir la mémoire humaine. Le courage et la peur. Le courage est la condition nécessaire de l'honneur guerrier, mais ne forme pas un couple inconciliable avec la peur. Celle-ci, à la différence du courage, est un affect attaché à la représentation d'un danger imminent. Le courage est la marge que laisse la peur à la réalisation de l'action. C'est l'action de combat adaptée à la situation, dans un climat de danger extrême, que n'entravent pas les conduites de fuite et de lâcheté. La colère dans l'action. La colère est un corrélat immédiat de l'action du combat, qui est évidemment toujours marquée par la violence. Elle n'est pas une émotion visant une personne ou un groupe, mais un bouillonnement général, culminant parfois en cette fureur interne, brève, souvent décrite par les auteurs de l'Antiquité. C'est la furor des Latins. Le clivage de la représentation de l'autre, les capacités de déni, il s'agit là d'un des aspects les plus accablants de la guerre. L'autre n'est plus reconnu, l'autre, l'ennemi, n'est plus reconnu comme un alter ego, le même que soi. C'est un des conflits psychologiques et moraux les plus douloureux pour le guerrier qui doit... Je parle surtout du guerrier occidental. Hein, c'est peut-être pas tout à fait la même chose pour le guerrier, mais attention, turco-mongol. Hein, qui doit assumer un clivage dans son être, ses émotions, au prix d'une anesthésie affective qui, même transitoire, n'est pas sans laisser des traces et des blessures dans sa vie. La capacité de délier l'humanité de l'ennemi, pour un homme porteur de valeurs fortes, est un fardeau que les donneurs d'ordre devraient prendre en compte. La potentialité de la cruauté n'en est pas très éloignée. L'action du guerrier, c'est évidemment le moment essentiel. Il y a deux temps dans le déclenchement de l'action. Tout d'abord, le sujet en possession des éléments nécessaires de décision tend son esprit et son corps au maximum de puissance et utilise son arme ou donne ses ordres pour atteindre la cible. Le second consiste à s'affranchir du souci unique du but, à se libérer de soi-même, de son attente. C'est une absorption dans l'acte lui-même. Et l'action de guerre la plus technique rejoint alors le long cheminement vers la perspective de mort. La Bhagavad Gita, qui a été citée déjà aujourd'hui, avec la décision d'Arjuna, le Bushido, c'est-à-dire la voie du guerrier du Japon, décrivent déjà cette attitude singulière, notamment dans le tir à l'arc. En termes psychanalytiques, on pourrait dire que le moi s'efface totalement dans une fusion avec le ça, fusion également avec le but, comme en témoignent certains qui, en un éclair, croient que c'est eux-mêmes ou un proche qu'ils ont abattu lors de corps à corps. Dans cette optique également, j'ose à peine esquisser une structure métapsychologique, psychodynamique, simpliste. Chez le guerrier se réaliserait peut-être au combat une alliance non conflictuelle entre le surmoi, dépositaire de l'honneur, et le moi et le ça, les deux instances propulsant l'action. Enfin, la défense contre la passivité m'est apparue comme un des traits les plus saillants de ces hommes et certainement une des clés majeures de leur dynamique guerrière. Le devenir guerrier est comme un négatif de la situation et de la condition de victime. L'appartenance groupale, enfin, nous avons entrevu, on en a déjà parlé, son importance, je voudrais juste souligner l'unité paradoxale de l'ouverture à l'identification au groupe et la capacité de solitude tranquille devant la mort, devant l'horizon de mort. Cette appartenance suppose évidemment une capacité de discipline, d'obéissance, paradoxale d'ailleurs pour des hommes parfois farouchement secrets, à la personnalité souvent rugueuse, telle que je l'ai notée chez les guerriers d'origine ou traditionnels. Finalement, le mystère de la psychodynamique et de la trajectoire existentielle du guerrier repose sur la fusion extraordinaire de l'agressivité et de défense adaptative complexe et de sens groupal social. La violence et les puissances fondamentales. Les sociétés humaines ont été depuis toujours traversées par des phénomènes de violence rationnelle ou irrationnelle. De même pour les êtres humains, portés à affronter violemment soi-même ou un autre. Les psychanalystes depuis Freud ont eu recours à un concept de violence instinctuelle, indifférenciée sur laquelle s'appuieraient, s'étayeraient les pulsions au sens psychanalytique. La violence fondamentale, terme issu des travaux de Jean Bergeret, diffère de l'agressivité qui a un but et un objet dans un environnement donné. La violence guerrière, autrefois valorisée, permettait d'assouvir les violences fondamentales individuelles. À côté de la puissance de la violence fondamentale, indiquons, sans le développer, la puissance du mythe sacrificiel dans les sociétés d'ordre politico-religieux, on en a déjà parlé ici, la puissance de la discipline et la puissance de l'appartenance groupale. La fonction de victime émissaire puis de victime rituelle permettrait d'expulser la violence interne et la culpabilité en la déléguant à la fonction guerrière. Les guerriers citoyens, devenus guerriers militaires, seront des sacrificateurs et des sacrifiés, comme il a déjà été dit d'ailleurs ce matin. Il se produit en eux une fusion-identification de la violence d'État et de la violence individuelle. En conclusion, donc, la guerre et donc le guerrier ont un rapport avec le sacré, comme je viens de l'indiquer avec la notion de sacrificiel. Le sacré, pour moi, représente l'objet du sacrifice, et le sacré est en rapport avec le corps intouchable de la mère. Il faut voir derrière l'effet de l'importance des injures qui visent à la mère, en particulier au milieu musulman. Roger Caillois, dans la lignée de Marcel Mauss, de Georges Dumézil, de Georges Bataille, rapproche la guerre de la fête primitive où toutes les valeurs s'inversent. La guerre est le paroxysme des sociétés modernes où toutes les valeurs s'inversent, écrit, je crois, Roger Caillois. C'est l'unique moment de concentration et d'absorption intense dans le groupe. C'est le temps de l'excès, de la violence, de l'outrage et de la souillure. Pour Ernst Jünger, guerrier de la Première Guerre, la guerre est en elle-même un sacrement pour les guerriers qui en sortent transformés par la découverte aux portes de l'enfer de l'essence même de leur être. On saisit là à quel point le guerrier est un héros tragique, plongé dans un triple mouvement, celui où l'action guerrière les propulse, celui de leur solitude absolue devant les puissances mises à nu, celui enfin fréquent de l'abandon et de la méconnaissance de leur propre communauté d'appartenance. Celle-ci préfère souvent au rite ancien et traditionnel de réintégration et de purification les exaltations romanesques et romantiques de l'héroïsme ou encore le culte des victimes. Ce style victimaire de notre société annonce-t-il le crépuscule des guerriers ?
Merci. Merci. Je suis fasciné par de constater, mais je n'ai toujours fait l'expérience, que les différents exposés qui partent de points de vue radicalement différents convergent et que donc très rapidement une constellation significative se met en place. Alors nous nous sommes un peu, je pense en être responsable, laissé prendre par le temps, mais et donc comme je suppose votre propos ne va pas recouper celui du général Gallois, si. Bon, et donc, je vous donne tout de suite la parole et on posera des questions éventuelles. Vous avez besoin de cet appareil ? Il fait plus clair ici, voilà. Voilà, donc vous vous êtes chef du bureau recherche au Centre de doctrine d'emploi des forces et chargé de cours à Sciences Po. Voilà, vous avez la parole.
Merci. Oui, alors moi, je m'exprime... D'abord en tant que praticien, c'est-à-dire un soldat français moderne, soldat nomade moderne qui a multiplié, qui a fait un certain nombre d'opérations un peu partout, enfin sur plusieurs continents, et en tant qu'historien, et mon point de vue, mon étude, mon livre porte sur le comportement. Moi, ce qui m'intéresse, voilà, c'est comment les individus se comportent dans un phénomène très particulier qui est celui du combat. Comment se comporte-t-il individuellement et collectivement. Alors je développerai ça plus demain matin, mais l'idée de base sur laquelle je vais m'exprimer maintenant, c'est l'idée que le combat, c'est un phénomène extrême, c'est un phénomène particulier, et qui induit des comportements extrêmes. Je compare souvent ça avec la physique, l'astrophysique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on s'approche d'objets de très très forte gravité, eh bien les lois de la physique se déforment, l'espace, le temps se déforme. Là, l'objet de très forte gravité, c'est la mort, et la présence de la mort déforme les individus et fait que les choses sont différentes lorsqu'on est dans cette zone de mort, dans cette bulle de violence qu'est le combat. Et plus précisément, ce qu'on constate, c'est que le comportement général, en termes, je dirais, d'efficacité, pas d'autres mots qui me viennent à l'esprit, mais n'obéit pas à une courbe de Gauss. C'est-à-dire que c'est pas tout le monde agit sensiblement de la même façon, puis à quelques exceptions, c'est l'inverse, c'est une loi de puissance. C'est-à-dire que vous avez une situation où, en l'immense majorité des cas, beaucoup font peu et peu font beaucoup. C'est-à-dire que si on a une courbe avec le nombre et l'action, on a quelque chose comme ceci. Et là, je vais m'intéresser à ce qui se passe sur le côté gauche de cette courbe, du côté du petit nombre qui fait beaucoup. Alors, fondamentalement, j'y reviendrai demain, et pour reprendre la métaphore de théâtre, moi, je baptisais ça les acteurs et les figurants. Donc, il y a ceux qui agissent et ceux qui sont là. Même s'ils ne sont pas inutiles, hein, on en reparlera. Et parmi les acteurs, il y a des acteurs de premier rôle, il y a les premiers rôles, il y a les seconds rôles. C'est souvent suivant leur capacité à appréhender la situation cognitivement. Et parmi ces acteurs, vous avez, et c'est mon propos maintenant, c'est vous avez des stars. C'est-à-dire que vous avez des individus très particuliers qui sont parfaitement enfin, qui sont à l'aise dans cette situation de combat et qui en sont des experts. Et c'est cette petite population qui est assez peu étudiée, en réalité, dont on va parler maintenant. Si on prend quelques éléments statistiques, on s'aperçoit que ça touche à peu près tous les phénomènes, toutes les formes de combat. Si on regarde, par exemple, la guerre sous-marine dans le Pacifique, on s'aperçoit que la moitié du tonnage japonais coulé est le fait de 15% des sous-marins américains. Une petite poignée, et cette petite poignée particulière de capitaines. C'est avec un sixième des capitaines américains qui font 50% du boulot. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez du côté allemand de l'Atlantique, vous avez la même proportion. Si on va en matière de combat terrestre, quand on regarde les statistiques, évidemment sujettes à caution, mais quand même, moi je me suis amusé à calculer le bilan des 44 meilleurs tireurs d'élite soviétiques, Zayatsev et les autres, et on aboutit à un total de 12 000 Allemands tués, dans beaucoup de cadres. Le record du monde, toute catégorie dans cette matière, c'est quand même un Finlandais, Simoaja, qui est crédité officiellement de 542 victoires pendant la guerre russo-finlandaise qui a duré 100 jours. Donc ça fait quelqu'un qui tue en moyenne 5 à 6 hommes chaque jour, sachant qu'en plus il a été blessé, donc il n'a pas fait le jusqu'au bout. Pour les fantassins, combat plus flou, plus confus, c'est peut-être plus difficile de mettre en évidence, mais si on regarde par exemple la Première Guerre mondiale, on tombe sur, là aussi, une poignée d'individus, tombés sur des gens comme Maurice Genet, du 287e régiment d'infanterie, qui est cité 14 fois, ou le soldat le français le plus décoré de la Première Guerre mondiale, qui est Albert Roche, chasseur Roche, du 27e BCA, qui est décoré bon, de la Légion d'honneur, médaille militaire, croix de guerre avec 4 citations et 8 étoiles, blessé de 9 fois, et qui, cet individu tout seul, est crédité de 1180 prisonniers. Au passage, vous entendrez qu'il n'est pas passé première classe. Il restait chasseur pendant toute la guerre, parce qu'à côté de ça, il avait présenté quelques problèmes en matière de discipline. Oui, non, mais c'est pas innocent. Et du côté tankiste, on cite le cas le plus connu, c'est l'officier allemand Michael Wittmann, qui est crédité avec son équipage de 200 destructions, de 200 victoires, mais on connaît moins le sergent américain Lafayette Poole, qui, avec son équipage là aussi de Charles Sherman, totalise 258 victoires pendant les combats de 44 à 45. Là aussi, j'ai fait le total des 245 meilleurs tankistes soviétiques et ça aboutit à un total de 2500 chars allemands détruits, ce qui correspond à l'ordre de bataille de 1940 lorsqu'il arrive en France, quoi. Et ça par un peu plus de 200 équipages. Au passage, c'est 10 fois l'ordre de bataille actuel, nombre de chars dont dispose l'armée de terre française actuellement. Ce qui montre au passage que ces individus prennent une importance de plus en plus grande au fur et à mesure que les armées se réduisent. Et donc ce phénomène semble s'appliquer à toutes les formes d'affrontement, mais c'est dans le combat aérien, dans le duel, qu'il est apparemment le plus facile à mettre en évidence. J'avais étudié le cas d'un groupe de chasse de la 8e Air Force américaine, de 1942 à 1945, 400 pilotes de chasse. Sur ces 400 pilotes qui sont engagés, vous n'en avez que 172 qui abattent un avion. Et parmi eux, vous en avez 42 qui sont des as, donc qui totalisent plus de 5 victoires. Et ces 42 pilotes, c'est-à-dire un peu plus de 10%, à peine plus de 10%, ils ont fait la moitié du bilan total. Et si on remonte, ce qui est intéressant en matière de combat aérien, c'est que si on remonte 30 ans en arrière, pendant la Première Guerre mondiale, alors que les équipements, évidemment, n'ont plus rien à voir, on retrouve des phénomènes semblables et des proportions à peu près identiques. Si on examine le cas, je vais préciser maintenant, des as de la chasse française de 1915 à 1918, on trouve 187 pilotes qui sont crédités donc d'au moins 5 victoires sur les Allemands. Cette poignée d'hommes, qui représente à peine 3% du total des pilotes de chasse formés, totalise au total 1756 victoires homologuées. En réalité, il y en a plus. Sur un total général de 3950 revendiqués par la chasse française, c'est-à-dire près de la moitié, donc 3%. Et si on regarde les 40 premiers d'entre eux, ceux qui ont abattu plus de 12 avions, ces 40 hommes, le bilan de ces 40 hommes représente 20% du total de destruction de la chasse française, à 40 individus. Donc ces hommes, voilà, cette petite poignée, j'avais essayé de voir à peu près à quoi ils ressemblaient. Et je m'étais aperçu, dans un premier temps, bon, je passerai assez rapidement là-dessus, mais sur la psychologie, c'est quand on examine leur carnet, quand on regarde leur correspondance, c'est d'abord sur la froideur. C'est-à-dire qu'ils sont extrêmement professionnels dans la description qu'ils font des combats. Très peu d'émotions, même quand ils décrivent des choses parfois terribles. Hein. Fonck, c'est le plus connu, enfin, donc l'As des As français, c'est le plus froid de tous, le plus cynique. Hein, et au moment où il écrit, j'atteignis l'homme en pleine poitrine, dans sa chute, son avion se rompit. J'atterris, tout vibrant encore, en me disant que c'était là du beau travail. Guynemer, il écrit à ses sœurs, avant-hier, attaquer Fritz à 10 mètres, tuer le passager et peut-être le reste. À 7h30, attaquer un aviatique, emporté par l'élan, passer à 50 cm, passager, quick. Il écrit toujours comme ça, Guynemer. Et quick, voilà, ça revient régulièrement. Oui. Et Delin, qui rapporte de son côté, voilà, j'avais une explication avec deux aviatiques, j'en pour un, puis me retournant vers le second, je vois le premier dégringoler, les roues en l'air et vider son passager de 3600 mètres. Servait chaud, c'était exquis. Seul, voilà, il n'y a que Roland Garros, où j'ai vu que, voilà, un passage où il avoue avoir été horrifié en voyant deux cadavres carbonisés dans la carcasse de l'avion qu'il venait d'abattre. Et on ne trouve pas non plus de plaisir sadique, mais en revanche, une sorte de jouissance quand même du chasseur ou du duelliste. C'est Fonck, lui aussi, qui dit, à un moment, donc, il raconte un de ses combats. Il s'approche, donc sa méthode de combat, c'était d'aller le plus haut possible. Il faisait du yoga pour pouvoir avoir les capacités pour rester à très très haute altitude, dans le froid et avec peu d'oxygène. Et il a une excellente vue et fondé sur les adversaires qu'il voyait. Il arrivait derrière eux et les abattait par derrière. Et il raconte au moment où il s'approche, de telles minutes sont brèves, mais les impressions s'y succèdent plus rapidement que dans les lignes employées à les décrire. L'homme qui les vit, dans leur intensité, en garde un souvenir aussi durable que la marque de l'eau forte imprimée sur le cuivre. Et ainsi de suite. Et on retrouve toujours cette idée que c'est de jouissance aux adrénalines. C'est pas la joie de tuer, mais plaisir de la sensation du danger, de l'esprit de compétition qui apparaît aussi très rapidement. Fonck lui-même dit, voilà, il préfère épargner la vie, surtout quand les adversaires se sont battus courageusement, mais, il ajoute, il est rarement possible de faire quartier sans trahir les intérêts du pays. Et par ailleurs, il y a un certain nombre de gestes amicaux qui apparaissent entre les adversaires assez souvent. Madon, qui à un moment est obligé de se poser, et il voit l'Allemand qui vient le saluer, qui vient dire bon, qui vient de l'abattre, et qui vient le saluer, qui part. En 1915, le pilote Pégou, qui est un des tout premiers as français qui est abattu, le pilote allemand qui a abattu Pégou vient lancer une couronne de fleurs sur sa tombe. Voilà. Alors, donc on a un de ces personnages assez froids, mais qui visiblement, alors je rentrerai pas dans le détail, mais je maîtrise pas bien, mais j'en parlerai après dans d'autres circonstances, y compris les miennes, qui sont sous effet d'une adrénaline qui augmente très clairement les capacités sensorielles, atténue très fortement la sensation du danger, et qui, comment dire, qui font que effectivement ils sont dans une situation d'acteur très vite face à des figurants, et que c'est déjà ce décalage leur donne un avantage considérable qui sera de plus en plus important au fur et à mesure qu'avec la guerre, les hommes qui arriveront en face seront formés de plus en plus rapidement. C'est-à-dire qu'on aura de plus en plus, en réalité, de figurants dans les airs et qui seront de plus en plus faciles à abattre par ces gens-là. Et surtout, tout ça provoque une sensation, c'est comme disait Hans Junger, donc un as du combat terrestre, qui disait « la bataille est comme la morphine ». Et cette sensation peut devenir une drogue, devenir une sensation agréable, qui peut devenir une drogue pour des gens qui peuvent être amenés à rechercher encore ces sensations fortes. Alors, ce qui est intéressant parmi ces gens-là, c'est que la plupart ont la possibilité, après la guerre, de continuer à voler. Autant les fantassins sont démobilisés, et comme le capitaine Conan, il va retrouver et retourne dans sa mercerie, eux, souvent, ont la possibilité de continuer à voler. Et là, si on prend par exemple les 40 que j'ai étudiés, Sur ces 40 premiers Français, il y en a 10 qui sont tués avant la fin des hostilités et 3 qui sont très grièvement blessés. Sur les 30 survivants, 10 meurent dans un avion dans les 9 ans qui suivent. C'est-à-dire que la proportion est encore plus grande que pendant la guerre. Des gens comme Madon, Delain, Marinovic, qui sont tués dans des exhibitions, dans des essais aériens, ou Nungesser, qui essaie de traverser l'Atlantique. L'Atlantique, ça apparaît, traverser l'Atlantique, c'est le nouveau grand défi de ces gens-là. Fonks y essaye, il s'écrase au décollage, il tue 2 membres d'équipage. Navarre, il pense également, et comme il envisage aussi, Navarre très grièvement blessé, lui, pendant la guerre, qu'il envisage aussi de passer sous l'Arc du Triomphe, et finalement, il va se contenter de s'écraser à Villacoublay. Védrine, qui était le mentor du Guynemer, spécialiste de ce qu'on appelait les missions spéciales sur les arrières, lui se pose sur le toit des galeries Lafayette et se tue 2 mois plus tard au cours d'un raid. À ce moment-là, donc, on est dans les 9 ans qui suivent, on n'est pas encore, on est à la fin des années 20, et il n'y a aucun d'eux, à ce moment-là, n'a plus de 35 ans. Hein. Donc ce sont des jeunes que la vingtaine, hein, pendant la guerre. D'autres phénomènes physiologiques sont mis en évidence sur ces individus. On s'aperçoit que l'accumulation des victoires, l'accumulation des honneurs, transforme même physiquement ces gens-là, augmente la pression sanguine, accroît certainement le taux de spermatozoïdes, de testostérone, ce qui augmente la confiance en soi. Les victoires augmentent la confiance en soi, et ce qui permet d'obtenir généralement plus de victoires. Enfin, il y a tout un cycle qui se met en place, et vous avez des individus comme Guynemer, qui est quand même au début de la guerre, qui est à la limite de la réforme médicale, hein, et qui se transforme physiquement en quelques années. Et ces gens-là, ils sont souvent dans les moments de calme. On assiste souvent à des virées. Nungesser, c'est souvent aussi des gens qui aiment bien les automobiles, donc, et on les retrouve, Nungesser qui conduit toujours en trombe et qui est toujours rond comme une queue de pelle. Navarre, lui aussi, qui régulièrement, quand il s'ennuie, dès qu'ils ne sont pas dans l'action, il s'ennuie. Donc Navarre régulièrement prend son avion et va faire de la chasse au canard. Il s'écrase d'ailleurs en faisant de la chasse au canard, etc. Et là, ce qu'on constate, c'est aussi, chez ces individus, c'est souvent un comportement presque monomaniaque de recherche de la victoire. Presque tous sont blessés à un moment donné, sauf Fonck, qui n'a jamais eu une balle sur son avion. Mais il n'y a aucun parmi tous ces as qui n'en profite pour essayer de se faire réformer. Et tous reviennent quasiment recombattre le plus vite possible. Le cas extrême, c'est celui de Nungesser, le hussard de la mort, très grièvement blessé le 29 janvier 1916 au cours d'un essai, qui revient en béquille 2 mois plus tard pour se battre à Verdun. En décembre de la même année, en décembre 1916, il doit retourner à nouveau à l'hôpital. Il refuse la réforme, on lui propose d'être réformé, il refuse. Et il profite de ses 11 jours de convalescence pour aller combattre, abattre 6 avions, avant épuisé d'être obligé de revenir à nouveau à l'hôpital. Et il accumulera blessures multiples, fractures du crâne, commotion cérébrale, lésions internes, 5 fractures supérieures, 2 fractures inférieures de la mâchoire, éclat d'obus dans le bras droit, genou et pied droit déboîtés, éclat de balle dans la bouche, tendon inférieur de la jambe gauche est atrophié, atrophie du mollet, fracture de la clavicule et du poignet. Et donc le combat... Non, parce qu'il est mort après la guerre. Il est mort après la guerre. Donc c'est lui qui avait la fameuse tête de mort, des tibias, des chandeliers sur son avion. Et donc le combat, pour beaucoup, devient une compétition sportive. Dans les mémoires de fond, qu'on le voit bien, au fur et à mesure que le temps avance, les ennemis deviennent des numéros. Ils ont un numéro d'ordre. En 1918, il écrit « Quelques jours avant mon arrivée, 11 Boches, dont 7 officiels, sont tombés sous mes balles. Le 1er août 1918, 11h du matin, je descends mon 57e Boche à la lisière du bois. Le 11 août 1918, en 10 secondes, j'ai réussi à abattre 3 Boches. Ce fut mon record au point de vue de vitesse. Le 26 août, il abat 6 avions en une journée. Voilà, pour moi, la journée avait été excellente. J'étais désormais à 66 victoires. Guynemer a des réflexions identiques. Hein. Combat avec 2 Fokker, le premier cerné, son passager tué. Résultat, 35 balles au bout portant et quick, chute vue par 4 autres appareils, et ça va peut-être m'amener la croix. Le 5 décembre 1915, Guynemer, avant, descend un de ses toutes premières victoires, hein, un aviatique d'aviation. L'avion s'écrase en forêt. Je rappelle qu'il faut des témoins pour pouvoir homologuer la victoire. Hein. Donc il s'écrase en forêt, c'est pas très loin de chez lui. Donc il fonce, il se pose lui-même à côté de l'église où se trouve son père, à la messe. Il va récupérer son père. Et il demande de téléphoner à tous les maires de la région pour organiser des battues pour récupérer l'avion et prouver qu'il a bien abattu l'avion. Donc je passe, mais voilà, ça aussi c'est une caractéristique commune de la plupart, et très peu échappent à ce phénomène. Alors dans cette guerre où le fantassin, première guerre mondiale, c'est peut-être la première de ce type, où le fantassin lui-même, il affronte plus les choses que les hommes, et où il développe un courage beaucoup plus stoïcien qu'homérique, le combat aérien semble rester le dernier champ du duel d'homme à homme. Maintenant, quand on regarde de plus près, il faut relativiser très largement ce courage homérique. En réalité, la grande majorité des attaques se font par derrière et ou sur des cibles très faciles, comme les avions d'observation. Comme décrit Jean Morvan, il dit, voilà, combat aérien, ça procède plus d'un guet-apens que d'un duel. On descend rarement un adversaire qui cabriole, on assassine le promeneur qui ravasse. Par derrière, sans qu'il s'en doute, de près si possible, il faut en 4 ou 5 secondes pouvoir tirer aux 40 ou 50 projectiles. Donc les cibles préférées sont les avions d'observation, donc souvent encombrés à l'époque, les avions de l'époque, c'est quand même que des gros ULM, hein, finalement, et on imagine des gros appareils de TSF ou de photographie, donc ils rendent lourds, c'est souvent les avions d'observation sont biplaces, donc ils sont très peu manœuvrables, donc ce sont des cibles relativement faciles. En plus, et surtout, ces avions sont obligés, pour faire du renseignement, d'aller dans les usines amies. C'est-à-dire que si on les abat, ils sont homologués. Il y a des témoins. Donc on préfère ces gens-là aussi pour ça, plutôt que d'aller les combattre dans les lignes ennemies. Funk lui-même dit, voilà, il est nécessaire d'en abattre le plus possible. Donc il parle d'avions d'observation, des ballons. Je n'ai jamais distingué entre chasseurs, régleurs, photographes. Tout est bon à supprimer. Si on regarde les 53 avions détruits par Guynemer, donc Guynemer, c'est quand même le héros de la chasse française, on s'aperçoit qu'en réalité, qu'il n'y a qu'une douzaine d'avions de chasse, de monoplaces de chasse. Et que lui-même, au passage, a été abattu cette fois, hein, je me rappelle. Les combats chasseurs contre chasseurs se limitent souvent à une approche discrète par l'arrière, suivie d'un foudroiement. La véritable rareté, en réalité, c'est le combat tournoyant. C'est extrêmement rarissime. Alors, je passe rapidement sur la manière dont ils appréhendent cognitivement le combat. Voilà, ce qui est intéressant, montrer que tout ça, ça procède, cette expertise est un effet exponentiel. Je m'explique. Bon, d'abord, un phénomène important, c'est que ces 40 AS sont aussi des chanceux. C'est-à-dire que, bon, il ne faut jamais oublier, quand on regarde les vainqueurs, quand on regarde les survivants, ceux qui réussissent, on ne va jamais oublier qu'il y en a aussi beaucoup qui avaient d'éminentes qualités et qui ont complètement disparu de l'histoire. Bon, ce caractéristique, effectivement, de cette carrière, c'est leur caractère exponentiel. Donc, quelqu'un comme Funk, il est breveté en mai 1915, mais il n'a sa première victoire qu'en août 1916. C'est d'ailleurs sa seule victoire en 1916. Donc Funk, qui en a 75 au total. Mais il accumule les heures de vol. Et ses 74 autres victoires sont acquises pendant les 21 mois qui restent. Guynemer, pareil, il passe son brevet de pilote en avril 1915. Il a souvent longtemps une réputation de casseur d'avion. Et il obtient sa première victoire en monoplace en décembre 1915. Et il a alors, là aussi, 200 heures de vol. Mais il n'a participé en moyenne qu'à 2 combats aériens par mois. Et il faut, à ce moment-là, 4 combats pour obtenir une victoire. Et l'accélération commence à partir de février 1916. Et là, il accumule 49 succès en 19 mois. Pour quasiment tous les pilotes, on assiste au même phénomène. Nungesser, pareil, breveté en mars 1915. Et il commence vraiment sa carrière de tueur du ciel qu'à partir d'avril 1916, etc., etc. Mais alors tout ça, ce décalage, il s'explique par les circonstances. Le combat aérien ne se développe vraiment qu'à partir de 1916, début de la bataille de Verdun. Et ensuite, parce qu'on tâtonne longtemps avant de mettre au point un armement de bord efficace, c'est, avant de trouver comment tirer à travers une mitrailleuse, c'est compliqué. Enfin, tirer à travers, pardon, une hélice, c'est pas évident. Les véritables duels donc, commencent qu'à partir de février 1916, se multiplient ensuite parallèlement à la production industrielle, qui, je rappelle, double. La production d'avions double tous les ans pendant la guerre. Donc, à défaut de combattre, les As ont eu le temps d'apprendre le pilotage, en général dans l'année 1915, d'accumuler des heures de vol, une expertise de vol, qui leur donne bien évidemment un avantage considérable lorsqu'ils se retrouvent face à des novices du vol. Cette expertise s'appuie également, quasiment dans tous les cas, sur un travail permanent, travail maniaque. Tous les grands As connaissent parfaitement les caractéristiques des appareils, des procédés ennemis. Fonck, c'est chaque fois qu'il abat un avion, il se précipite pour aller examiner l'appareil, l'étudier. Il dit, voilà, pour devenir un grand As, l'apprentissage est long, difficile, semé de déceptions, d'échecs répétés au cours desquels votre vie est 100 fois jouée. Fonck, c'est quand même le gars qui est obsédé par les enrayements de mitrailleuses et qui essaie chaque cartouche. Il essaie chaque cartouche dans la chambre du canon pour savoir si elle rentre bien. Et il fait ses bandes de mitrailleuses avec des cartouches une à une, ce qui lui prend un certain temps. Gunmer, c'est également un passionné de technique aéronautique. Donc il a commencé comme mécanicien d'ailleurs. Et voilà, il collabore, il va voir les industriels et en permanence, il peaufine son appareil jusqu'à créer, par exemple, un avion spécifique, le Space 12, avec un canon de 37. Et donc, pour conclure, une armée, c'est finalement une machine à former des tueurs, mais c'est une machine à faible rendement, quand même, globalement. Dans l'application guerrière de la loi de Pareto, on s'aperçoit que la majorité des résultats micro-tactiques sont le fait d'une minorité d'individus, et dont ceux qui survivent assez longtemps peuvent obtenir le statut d'as. Donc on peut, sur une seule action de combat, apparaître héroïque et brillant, alors que parfois on est simplement chanceux, mais avec la répétition, le facteur chance s'élimine, et les héros survivants apparaissent alors vraiment comme des experts, comme des champions. Outre d'être chanceux, leur point commun reste une stabilité émotionnelle, des capacités de coordination sensorielle et motrice supérieures à la moyenne, et passer un premier seuil d'expérience, ces capacités innées se développent très vite et se nourrissent de chaque victoire jusqu'à un seuil de quasi-invincibilité qui est aussi souvent un seuil de dépendance psychologique. Ces soldats d'exception contribuent largement à la victoire. Maintenant, il reste à déterminer leur place dans l'organisation militaire et dans la société. Dans un article récent du Times, récent, 2009 quand même. L'historien britannique Ben McIntyre constatait que, alors qu'à ce moment-là, donc en 2009, les Britanniques déploraient 500 morts en opération, en Irak, en Afghanistan, aucun héros combattant n'était connu du grand public. Il constatait également que les soldats mis en avant, donc le grand public, et c'est pareil pour nous Français, hein, quel nom de soldat français est-on capable quel nom propre d'ailleurs est-on capable de citer dans les opérations récentes, à part le Charles de Gaulle et l'avion Rafale. Il constatait aussi que les soldats qui avaient été récompensés de la Victoria Cross, quelques soldats, étaient souvent des héros secouristes, comme le caporal Béhari, qui a été décoré pour avoir sauvé des camarades lors d'embuscades en Irak et en 2004, ou dans le cas américain, des héros victimes, comme Pat Tillman, donc un grand footballeur américain qui a décidé de s'engager et qui a été tué en Afghanistan, entre parenthèses, par des balles américaines, ou Jessica Lynch, prisonnière en Irak, pseudo-prisonnière en Irak, comme chacun sait. Tout se passe. Comme si combattre était devenu honteux. Les réactions en France, après par exemple l'embuscade d'Usbin le 18 août 2008, rejoignent un peu cette analyse, c'est-à-dire que si la perte de 10 hommes a suscité une grande émotion, voire une surréaction victimaire, il n'a jamais été fait mention dans tous ces événements, par exemple du comportement remarquable du sergent Casaro, qui commandait le groupe de tête, qui est tombé, qui était en tête, qui était au milieu des talibans, qui a réussi à s'extraire de l'embuscade, à récupérer une partie de ses soldats, qui a tué 3 talibans et qui a réussi à se sortir de l'affaire. Jamais personne n'a jamais entendu parler de cet individu. Donc les combattants naturels, les guerriers et donc aussi les as potentiels existent toujours. Il reste à déterminer maintenant si une société et son armée peuvent espérer vaincre en refusant de les reconnaître.
Eh bien, merci. Tout à fait passionnant. Et pour ce qui me concerne, bien entendu, une fois que ça a été énoncé, on se dit c'est comme ça dans toutes les activités humaines. C'est une petite minorité qui fait l'essentiel du boulot, dans tout. Et puis même au sens propre du terme de faire le boulot, c'est toujours les mêmes à qui on fait appel et ainsi de suite. Donc c'est assez normal, mais enfin c'est tout de même fascinant. Et l'étape suivante que vous avez parcourue, c'est que ce sont des personnalités psychiques non quelconques et des trajets qui ne sont pas quelconques non plus. Enfin, donc, c'est tout à fait... Mais enfin, bon, il est 6h moins 20. oui. Mais bon, il y a tout de même place pour des questions, et en particulier de nos psychiatres, là, je pense.
Oui. Très vite, ce que vous avez dit me rappelle la phrase de Churchill, la fin de la bataille d'Angleterre, que le destin de beaucoup a dépendu vraiment de
peu.
Sont très peu. Et un texte qui est moins connu, c'est le texte de Robert Sherrod, qui était reporter de guerre à Tarawa en novembre 1943, et qui assiste au débarquement de la plage de Bessio. Là. Des lieutenants et des capitaines demandaient volontaires, les premiers se font tuer au bout de 2 jours, et après ils ne trouvent plus personne. Et ils se désolent, ils disent c'est toujours les mêmes, on perd nos meilleurs hommes en quelques jours, et après on n'a plus que des cloches. Pratiquement ça. C'est ça, c'est intéressant, parce que vous disiez, ils se font tuer, mais comment se fait le renouvellement de ces hommes?
Oui, tout à fait. Alors, ce qui est intéressant dans le cas américain, le fonctionnement américain est très intéressant pendant la Seconde Guerre mondiale, la manière dont ils gèrent les individus. Ils gèrent leur infanterie peu nombreuse. Ça, c'est un grand problème américain, très, très peu nombreuse, ce qui fait que 2 mois après... donc, ils sont toujours en première ligne, sur l'américain. L'infanterie américaine est toujours en première ligne, quasiment. Ils sont toujours au combat, ils sont toujours engagés. Oui, il y a très peu d'unités en réalité. Ce qui fait que 2 mois après le débarquement, les divisions, les unités qui ont débarqué le 6 juin, vous avez 75% des hommes qui ont débarqué le 6 juin qui ont été tués ou blessés à la fin de la bataille de Normandie. Et fin 44, à l'automne 44, vous avez 70% quasiment des fantassins américains qui ont été tués ou blessés. Enfin, Et donc, voilà, très peu d'unités, mais ils ont conçu ça comme une chaîne automobile, en réalité. Donc, ils ont tout un système, et ils gèrent les individus comme des pièces détachées. Et à part que c'est des individus, quoi. Et c'est là que se situe le problème, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont parfaitement, ils ont géré, ils ont anticipé les pertes, sous-estimées, mais bon. Et ils ont géré tout un flux d'hommes qui arrivent. Et donc, très schématiquement, mais c'est quasiment ça. Vous avez chaque fois un soldat américain tombe, un fantassin américain tombe, le lendemain vous en avez un qui arrive en première ligne. Donc au point de vue comptable c'est tout à fait remarquable, au point de vue management et gestion c'est tout à fait remarquable, au point de vue humain c'est une catastrophe. C'est-à-dire que c'est un individu qui se retrouve tout seul, il arrive en première ligne dans une section engagé au combat où il ne connaît absolument personne, il n'y a aucun lien de camaraderie ou quoi que ce soit, il est complètement perdu, le stress est multiplié encore par tout ça. Et ça aboutit, et en plus, en réalité, il engage même la sécurité des autres. Enfin bon, c'est
le syndrome du vieux sergent, décrit par Sobel en 1945. Ils partent à 60, au bout de 8 jours, ils ne sont plus que 30. Puis encore 8 jours après, ils ne sont plus que 5, plus 4. Puis le dernier meurt à côté de lui. Et à ce moment-là, le dernier survivant, qui ne connaît personne autour de lui, se décompense et fait des erreurs, et on l'évacue de force. C'est un de ceux-là que Patton a giflé la deuxième fois. On appelle ça le syndrome du vieux sergent. C'est une forme de burn-out. Sobel, S-O-B-E-L, en 1945.
Laure, vous voulez dire quelque chose?
Oui, il me semble que j'avais envisagé de parler de... Comme on est tout près, ça me paraît un peu étrange. Envisager de parler de leur attitude ou de la difficulté qu'on pouvait avoir à gérer
ces gens-là, en dehors du combat, en temps de guerre ou en temps de paix. Alors, est-ce que tu as des éléments sur leur façon de se comporter?
Le problème majeur de ces acteurs, de ces figurants, c'est qu'on n'arrive pas à les déceler avant. On a essayé tout un tas de procédés, notamment les Américains, on a essayé de déceler ceux qui avaient les qualités de bons combattants et les autres. Bon, c'est que ça reste quand même une science extrêmement imparfaite, quoi. Bon. Donc à partir de là, on ne peut pas le détecter avant. Donc la deuxième catégorie, c'est... tout ça fondamentalement, est-ce que ce sont des qualités innées ou est-ce que ce sont des qualités socialement construites? Si c'est complètement socialement construit, c'est que ce que je disais tout à l'heure, c'est une machine à très faible rendement, quoi. Si on n'arrive qu'à produire que 10 à 15% d'individus qui font réellement le boulot, on est mauvais, quoi. Bon, donc il y a quelque chose, mais en même temps, on n'arrive pas. Et donc, à partir de là, question suivante, c'est comment, et je reparlerai demain, c'est tout l'objet de demain, comment on forme, comment on fait que les individus aillent dans cette zone de violence et s'y comportent à peu près correctement. Sachant qu'on n'arrive pas à reproduire le combat. Ce n'est pas possible. On ne peut pas le reproduire exactement, quoi. Donc on peut le simuler, mais le plus près possible, mais... il n'y a pas de mort malgré tout, donc on le sait quand même, il peut y avoir de risques, mais on sait fondamentalement qu'on ne va pas s'entretuer, vraiment. Ou alors, on met les individus sous pression, c'est le principe indirect, c'est-à-dire que le combat est un lieu d'une très grande pression psychologique, bon, on va faire, si on ne peut pas simuler le combat, on peut simuler la pression psychologique. Donc d'autres façons, en entraînement extrêmement difficile, éventuellement par j'ai connu, mais des humiliations, par un truc extrêmement... Le problème de tout ça, c'est que des personnalités fortes, ça a pour effet aussi, outre que ça peut briser les individus avant même d'arriver au combat, mais c'est aussi extrêmement dissuasif pour un certain nombre d'individus plutôt individualistes, des gens comme ça, qui n'ont pas du tout envie d'être cadrés, d'être insérés.
Ah, c'est ça, en fait, que je veux dire. En fait, je parlais moins de la question de la fabrique.
Est-ce que
de la question de la personnalité. Et est-ce qu'il ne manifeste pas des traits de personnalité similaires dans leur rapport à la discipline? Leur individualisme.
Roche, c'est quelqu'un qui n'arrête pas de faire des conneries en service, qui boit, c'est souvent le cas, c'est pas obligatoire, mais il y a souvent, effectivement, c'est le cas de personnalités.
Ça me fait penser à la phrase du maître de guerre à me briser quand cas de guerre. C'est pour ça que je me demandais quelle était leur capacité d'adaptation en fait en temps de paix.
Et maintenant, c'est compliqué, sachant que. On peut voir. Un peu français, une difficulté aussi à accepter ces individualités. Quand la guerre se fige, la Première Guerre mondiale, quand les lignes de tranchées commencent à se figer, on voit tout de suite spontanément des gars, des fantassins, qui vont dans le non-man's land et qui vont tout seuls, qui vont faire des tirs. C'est le premier sniper, c'est un phénomène spontané, c'est des gars tout seuls qui y vont. Et tout de suite, le commandement récupère, ça c'est pas normal, parce que derrière tout ça, il y a quand même globalement quelle vision on a du soldat. On parlait de l'aristocratie, de l'honneur, l'honneur réservé aux officiers, aux aristocrates, et puis la roture qui en était forcément dépourvue. Donc si elle est dépourvue d'honneur, il faut les encadrer, les surveiller, parce qu'ils vont s'enfuir, etc. C'est pas complètement disparu. Hein. Moi, je suis un ancien sous-officier. Je montais comme ça par le rang et je suis arrivé à l'école militaire interarmes à Couette-Quidan. Et là, premier cours d'éthique et de déontologie, le capitaine Saint-Cyrien qui nous dit écoutez les gars, c'est pas compliqué, l'éthique c'est ce qui différencie l'officier du sous-officier. C'est ce qui différencie l'officier du sous-officier. Et il dit ça.
Il dit ça
dans un sous-officier. Donc il est.
Ah ben ça, c'était pour souligner la promotion.
Oui.
Les fichiers dans le sens d'éthique.
C'était exactement ça. Hein, c'est-à-dire que le premier objet, c'était d'effacer le passé et de revenir, reborn, de renaître comme fichier.
Vous aviez demandé la parole d'abord, je crois, non? Non, non. Ah bon.
Ah, bah, alors,
Je vous la donne et vous la refusez. Allez-y.
Il n'y en a qu'un à la fois.
Ah voilà, ça y est. Oui, je voulais d'abord rappeler les travaux du général Marshall dont je parlais, ça a inauguré une pratique dans l'armée américaine de chercher les combattants instinctifs et de les faire s'occuper d'une section de 9 ou 10 types simples. Voilà. Et c'est un des moyens. Le problème qui est très très important, c'est le problème du groupe. Parce que si, quand on est. Les guerres montrent que les gens sont prêts à aller à l'attaque pour les copains. Ça, c'est fondamental. C'est le petit groupe. C'est pour ça que les gens sont prêts à se faire descendre. C'est plus important que l'idée de patrie, c'est ce que je disais tout à l'heure.
J'y reviendrai demain.
Alors, il y a un problème de motivation à la fois des petits groupes, mais aussi quand même de savoir pourquoi on se bat. Hein. Parce que je pense que se battre uniquement pour de l'humanitaire, pour les femmes voilées ou pour des trucs comme ça, je ne sais pas si ça suffit vraiment à entraîner le fait que les guerriers soient prêts à se faire descendre. Hein. En Algérie, déjà, c'était plus pareil. Hein. En Indochine, je crois que les motivations étaient déjà assez importantes, parce que c'était une armée de métiers, c'était des engagés. Hein. Ouais. Et puis, alors, bien sûr, il y a eu, sur le plan politique, je ne vais pas rappeler toutes les erreurs qu'il y a eu, mais une fois engagés, il y avait quand même un affrontement avec le Viet Minh, avec des valeurs différentes, quand même. Je ne sais pas des valeurs au sens de bon gars tout à l'heure. Mais enfin, il y avait quand même une idée. En Algérie, ça, je peux en témoigner, hein, c'est pas pareil. Hein, pour décider... Enfin, quand même, encore, il y avait l'idée, c'était une armée nationale. On était en France. Hein. On était sur le territoire.
Hein. Et ça se pose, on avait ramassé le fond de tiroir.
Oui.
Il y avait 1000 manteaux à 60 qui étaient envoyés.
Oui, oui, ils étaient classés F4, X4. Hein. Enfin, ça, c'est une histoire de débile.
C'est
un autre problème. Mais ça, c'est pourquoi, au nom de quoi, on est prêt à tuer ou à se faire tuer. Hein. Alors ça, c'est déjà la première question. Il faudrait demander déjà aux jeunes recrues qu'est-ce qui te pousserait à te faire descendre ou à descendre les autres.
C'est toi-même qui
m'avait dit, plutôt rouge que moi, en critiquant la fin de la guerre froide.
Ah oui, oui.
Ah
oui, 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 oui. Oui, 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 c'était... Oui, c'était comme qui a fait le bouquin. Oui,
mais ceci dit, vous avez en moyenne chaque année maintenant 17 000 jeunes Français qui s'engagent volontairement, dont beaucoup dans des unités de combat qui savent qu'ils vont partir en opération.
Oui.
Alors maintenant...
Mais
ce qui est intéressant, si vous voulez, alors, il y a d'abord, effectivement, le soldat professionnel lui-même... Alors on peut dire, il y a une forme d'éthique du soldat professionnel moderne, hein, je vous parlais de nomadisme, on saute d'une opération à l'autre, on fait 4 mois, 6 mois. Et donc il y a une forme d'éthique du soldat professionnel qui est engagé à peu près n'importe où, sans trop. Normalement. Bon. Moi j'étais engagé au Rwanda par exemple en 92, donc avant le massacre, hein, donc j'étais engagé au combat, avec l'armée rwandaise.
Ah oui, c'est pareil.
Bon. Et je crois qu'il n'y avait pas la moitié des marsouins que je commandais qui savaient même que le Rwanda existait. Hein, mais bon, ceci dit, arrivé sur place, effectivement, je crois qu'il n'y a pas une journée, je me demandais, mais qu'est-ce qu'on fout là, quoi. Quels intérêts, bon, je veux bien me battre pour défendre les intérêts de la France, mais quels intérêts on défend, quoi.
Exactement. En Centrafrique, par exemple.
Non, c'était avant le massacre.
Quel est le moteur du soldat en Centrafrique,
hein. Limite, vous pouvez essayer de stabiliser.
Alors, quel est le risque gros,
excusez-moi, Oui. Vous aviez demandé la parole.
Mais ce qui est intéressant aussi, si vous voulez, par exemple, moi j'étais, juste préciser, terminer là-dessus, j'étais engagé à Sarajevo aussi en 93, pendant le siège. Donc, unité régiment professionnel, on part en une semaine, donc on était très contents de partir, Sarajevo, bon, ça n'a pas trop quoi pour y faire, mais enfin bon. Et en même temps, vous aviez des unités de volontaires service long, donc des appelés, qui eux s'engageaient pour Voilà, donc eux, il fallait une valeur forte. Pourquoi? Et ils y allaient généralement parce que, voilà, pour des raisons humanitaires, il fallait. C'est comme ça qu'on leur présentait l'affaire, quoi. C'est des missions humanitaires. Et puis, arrivé sur place, le décalage avec la réalité est tellement fort que ça posait énormément de problèmes. Alors qu'ils étaient dans les secteurs les moins durs, de loin les moins durs, par rapport à Sarajevo, par exemple. Mais le trouble, la dissonance cognitive était tellement fort que ça posait énormément de problèmes, quoi. Et même chez nous, ça en posait aussi. Mais c'était tout. Oui.
Voilà. Vous voulez. Ah ouais. deux, trois remarques. Micro.
Sur vos deux exposés, ce qui m'a frappé, c'était. Que le guerrier, c'est celui qui persévère dans son être jusqu'à l'auto-commentaire, sa comptabilité personnelle, etc. La deuxième chose, c'est le stoïcisme, c'est-à-dire l'absence d'émotion qui permet l'action, qui permet d'oublier son corps, d'oublier la peur de la mort, pour se confondre relativement avec son être fonctionnel de guerrier, il me semble. Et puis, la troisième chose, où là c'était pas très clair, c'est la gestion que la cité fait du héros ou du guerrier. Parce que le héros, même le héros mythologique, Héraclès par exemple, il est nécessairement ambigu. Il a une ambiguïté. Il a un côté, il accomplit des exploits, mais il a aussi un côté sale type. Enfin, je le dis très vite, mais c'est comme vous disiez tout à l'heure. De sorte que la cité préfère le recevoir autant que possible embaumé, mort de préférence. De sorte que ça permet de comprendre pourquoi. Quand le héros est mort, bon, il peut même avoir le mot. Quand il vit, il dérange l'ordre de la cité quelque part, et il risque de faire valoir la cité comme votre guerre. De nous,
je comprends.
De la sorte, il vaut mieux ne pas le nommer. Il n'existe pas ainsi. Mais il y a de bons guerriers que de guerriers morts. Ou de héros, voilà.
Alors c'est les...
à propos de la question que vous posiez sur la, je dirais le pourquoi des hommes qui vont au combat, etc., et puis qui reviennent d'ailleurs cassés. Hier, je parlais avec le collègue Malou qui est à la CABAD, donc il s'occupe des blessés de l'armée de terre, et il me disait que ceux qui reviennent du Mali, alors d'abord ils savent pas toujours. Tout d'un coup, ils découvrent qu'ils peuvent mourir au combat. Et certains ne l'avaient pas intégré avant. C'est-à-dire, tout d'un coup, c'est la découverte qu'ils peuvent. Il y a une espèce. C'est très important. Deuxième point, au Mali, donc finalement, ils se sont battus et tout. Et il y a eu quelque chose de très important. Et ils me disaient qu'il faudrait travailler là-dessus. C'est sur la parole du politique. Parce que quand Hollande a dit on va au Mali pour faire la guerre, et deux, on va aller. Il faut détruire les talibans. Ouais. Eh bien, ça a été clair, précis. Et il disait finalement, ces soldats reviennent sans culpabilité, parce que c'était légitime et c'est la parole politique qu'il a donnée. Et la RCA, à mon avis, ça va coincer parce que. Et en plus, alors pour le Mali, en plus, il y a eu la réaction de la population locale qui a célébré. Mais je pense que tu vas en parler demain, et qui est essentielle de ça. Et pour la RCA, par contre, là, ça va coincer, parce que là, il n'y a pas de, il y a pas le projet politique n'est pas clair, et en plus, ils se retrouvent entre deux forces antagonistes et avec une haine des deux côtés qui n'avait pas été. Moi, je voudrais dire juste un mot sur les héros. En fin de compte, tous ces héros de la Première Guerre mondiale, etc., ils ont fait leur propre pub aussi.
Pour être un héros, il faut savoir faire sa publicité dans l'histoire, etc. Hein, et faire quelque chose d'exceptionnel, mais il faut faire aussi sa pub, et on ne fait pas la pub. Et
bien, bien faire, le faire savoir.
Oui, oui, bien faire savoir. Et autre chose, c'est, pour Claude Barrois, question, s'il écoute, il n'écoute pas. Voilà, coucou, voilà, c'est ça. À un moment, vous avez dit la colère, hein, la colère, la haine, etc. Et vous ne croyez pas que... Parce que moi, j'ai lu là pour travail sur la peur, mais à travers la littérature, j'étais étonnée de trouver dans des livres, alors sur la guerre de Crimée, il y en a un sur deux, la guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, pour la première guerre mondiale, deuxième guerre, la guerre du Vietnam, et dans les tous, il y a un point commun, c'est cette haine qui vient et tous disent la même chose, c'est la transformation de la peur, et c'est le fait d'avoir peur qui se transforme en haine et en agressivité, voire en cruauté. Ouais. Et donc, ça, c'est, moi, je crois que c'est intéressant. Enfin, c'est plus que l'agressivité. Tu vois, c'est plus
oui, mais
que
ça peut se transformer en froideur complète. Hein.
Bon, oui, mais alors là, est-ce qu'on n'est pas dans... Alors,
ça, chaque fois que je me suis retrouvé en situation de danger, par exemple, j'ai l'impression de me refroidir.
Voilà,
de me refroidir,
c'est ça. Mais de devenir extrêmement calme. Est-ce que dans ce cas-là, on n'est pas dans un trouble dissociatif? Voilà. Et toc.
Oui, je voulais préciser un risque de réductionnisme, parce que j'ai entendu parler de borderline, ça m'a fait sursauter.
Non, mais
et tout à l'heure, vous évoquiez des choses. Le réductionnisme au pathologique. Alors ça, c'était insupportable. Je crois il ne faut pas bricoler avec le pathologique. Hein. Les guerriers, les vrais, ne sont pas des gens pathologiques. Hein. C'est des
Par
gens
contre,
qui sont dans l'excès, peut-être.
Mais enfin, il y en a qui aiment
tuer. Il ne faut pas confondre avec le pathologique. Le pathologique,
il y en a qui aiment tuer.
Oui, ce n'est pas des psychopathes. Hein.
Oh, bah tiens, il n'y a pas des psychopathes, peut-être. Quand on envoyait les nettoyeurs de tranchées, il y en avait des bizarres. Attendez.
Je ne prendrai pas le coup. J'en ai vu beaucoup des psychopathes, ils ne tiennent pas le coup en guerre.
Bah, ils tiennent peut-être pas le coup, mais ils auront tué en
On les refuse.
Ils sont tués en paix qu'ils ne tiennent pas le coup.
Ouais, voilà,
en guerre, ils sont occupés.
Voilà, ils sont occupés à tuer. Alors, attendez, il n'y a
Bien.
Pas de psychopathe. Dans les
Merci les pour votre résilience, en tout cas à tous.